Bonjour à tous. Ça va? Vous allez bien? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent des séries télé? Je m'en doute un petit peu. Avec Anne-Laure, on regarde une série en ce moment qui s'appelle The Good Place, le bon endroit. En gros, le principe de cette série, c'est que, en fonction du nombre de bonnes actions qu'on a fait, on a des bons points, les mauvaises actions, des mauvais points, et puis vous en doutez, à la mort, il y a un solde qui est fait, et si ce solde est positif, on va au bon ou au mauvais endroit. Il y a toute une intrigue qui est faite là-dessus. Et on trouvait ça intéressant parce que c'était tellement symptomatique de cette vision qu'a le monde sur la mort, sur ce qui se passe après. Tout le monde peut gagner sa place. On peut tout réussir soi-même. Et aujourd'hui, on vit dans une société qui nous conditionne dans cette illusion de toute puissance. On peut tout réussir, on peut régler tous nos problèmes, que ce soit des problèmes de solitude, des problèmes d'anxiété, des problèmes d'image de soi, des problèmes sexuels. Il suffit de voir le nombre d'ouvrages qu'on peut voir sur des sujets tels que comment vaincre sa timidité, comment vaincre le stress, comment vaincre la fatigue. Et dès le plus jeune âge, on a vraiment cet esprit de compétition qui est ancré en nous. Et on nous pousse dans cette direction-là. On va nous proposer des jeux où le but c'est de gagner la première place. C'est d'être toujours le premier. Sur certains jeux vidéo même, c'est de tuer l'autre. Et puis ça continue à l'école, avec les concours. Il ne suffit pas juste d'être bon, mais il faut être meilleur que les autres. Et on refuse d'accepter ses limites. Et on poursuit des buts qui sont la plupart du temps irréalisables et qui concernent que notre vie sur Terre. Mais Dieu, ce matin, pour nous, il voudrait resituer ses priorités. Il a un programme pour nous. Et ce programme, on peut le trouver dans Matthieu, chapitre 5, verset 48. Vous soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Si on regarde bien, il n'y a pas marqué « Vous essayez d'être parfait. Faites au mieux et on verra bien. Allez-y, essayez. » Il y a marqué « Vous soyez parfaits ». Ce n'est pas une option, c'est une exigence de Dieu lui-même. Et franchement, quand je vous regarde, je me dis qu'il y a du boulot. Ça va, rassurez-vous, quand je me regarde, je me dis qu'il y a encore plus de boulot. Mais j'espère que vous avez compris l'idée. Le projet de Dieu, par nos propres forces, il est juste impossible. Simplement, l'idée qu'on puisse accéder à un tel niveau de perfection, ça relève juste du délire. Avoir le courage de prendre position dans un monde qui va droit dans le mur, aller à contre-courant, prendre position sur son lieu de travail, à l'école. Si vous avez comme moi le sentiment d'entrer dans la catégorie des gens ordinaires, des gens peu capables, des gens incompétents, voire même médiocres, il y a une bonne nouvelle pour nous. C'est que c'est cette faiblesse-là qui nous qualifie justement pour l'extraordinaire. Pourquoi ? La réponse se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 27. Parce que Dieu se plaît à utiliser les faibles pour confondre les forts. Et c'est ça le thème du message de ce matin. La force dans la faiblesse. On a tous une tendance à se servir de notre faiblesse comme d'une excuse quand on est devant une tâche difficile. Non, mais tu sais, si j'arrive pas à faire ça, c'est j'ai eu des problèmes relationnels dans mon enfance et dès que je suis face à telle ou telle tâche, c'est un petit peu plus difficile que les autres. Et on est là à se trouver des excuses, à se justifier, mais faut pas. Parce que c'est cette faiblesse-là qui fait que Dieu nous a choisis. Quand on regarde un petit peu trop rapidement les héros de la Bible, on voit des hommes qui ont tué des géants, qui ont ouvert la mer en deux, qui ont résisté à des lions, qui ont conquis des royaumes, qui sont battus à 300 contre 135 000, et on est admiratif. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail ces hommes-là, en fait on s'aperçoit que c'est des tricheurs, des accapareurs, des peureux, des orgueilleux, des timides. Le seul point commun qu'ils ont tous ensemble, c'est qu'ils ont commencé à faire des choses extraordinaires à partir du moment où ils ont placé leur confiance en Dieu. Et tous ces héros de la Bible, ce n'étaient pas des rockstars, ce n'étaient pas des politiciens en vogue ou des sportifs de haut niveau de l'époque, c'était des gens ordinaires comme vous et moi, qui se savaient limités dans leurs forces. Quand le jeune David a présenté son CV au roi Saül pour entrer dans l'armée, sa famille s'est carrément moquée de lui. Et le roi lui a dit qu'il n'avait pas le profil requis pour ce type d'opération militaire. Pourtant, on voit quand même que c'est David qui par la suite a amené à la victoire le peuple d'Israël contre toutes les batailles avec les Philistins. Dieu a choisi Gédéon. Ils étaient une armée de 32 000 contre 135 000 Madianites. Déjà, il n'y avait pas un rapport de force qui était très équilibré. Mais Dieu lui dit, sur ces 32 000, tu vas m'en choisir 300. Et tu vas aller te battre contre ces 135 000 Madianites. Pourquoi ? La réponse dans Juges, chapitre 7, verset 2. Le peuple pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Et si on regarde bien, ils ne sont pas battus avec des lance-missiles, des lance-roquettes, comme ça peut être le cas aujourd'hui, mais ils sont battus avec des torches et des trompettes. Parce que c'est ça la stratégie de Dieu. C'est pour que la gloire lui revienne à lui seul. Moïse. Excellent exemple, Moïse. On peut lire dans Actes que Moïse était quelqu'un qui avait beaucoup d'éloquence. C'était quelqu'un de très charismatique. Quand il parlait, on l'écoutait. Et il était certainement assez orgueilleux et pensait pouvoir délivrer le peuple d'Israël à sa manière. Mais est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu l'a utilisé ? Il va attendre que Moïse soit destitué de son poste, qu'il soit en fuite de l'Égypte, qu'il ait une image de lui tellement pourrie qu'il en vienne à se recroqueviller sur lui-même, et alors que cet homme qui était plein d'éloquence, il en arrive à bégayer. Et Dieu lui dit quoi ? Tu vas aller en Égypte. Pourtant, on sait tous qu'il est grillé, Moïse, en Égypte. Mais c'est là qu'il va aller, parce que Dieu choisit de l'utiliser dans ses faiblesses. Dieu a choisi Paul aussi. Paul, un des pires opposants de Dieu, qui va être choisi comme son porte-parole le plus puissant. On lit dans la parole que Paul, c'était un juif zélé, un juif versé dans les Écritures, qui était assez orgueilleux et sûr en tout cas d'être du bon côté. Et c'est pour ça qu'il persécutait les chrétiens. Mais notre ami Paul, il va prendre une belle claque quand il va se rendre compte que finalement, il est du mauvais côté. Il pensait être du bon côté en persécutant les chrétiens, alors que finalement, c'est lui qui est de ce côté-là. Et là, il est en train de se dire que tout ce qu'il infligeait à ces chrétiens-là, ben finalement, c'est le sort qui lui est réservé. Et Dieu, dans sa grâce, choisit d'utiliser Paul pour lui donner une seconde chance, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on doit à Paul plus de la moitié du Nouveau Testament. Et même après sa conversion, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Il en a encore vécu des galères, Paul. Souvent, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 23, « Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage, j'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, de la part de ceux de ma nation, de la part des païens, dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. » Il a encore fait preuve de faiblesse et Dieu l'a utilisé. Et finalement, on voit que ces héros qui sont décrits dans la Bible, ceux que Dieu a utilisés pour faire des exploits, pour manifester sa gloire, finalement, c'est des anti-héros. C'est l'inverse de ce que le monde nous présente dans les films. Mais c'est pour que personne ne puisse se glorifier devant Dieu. Je vous propose de prendre un autre passage qu'on peut trouver dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, versets 26 à 31. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je vous propose un petit exercice pratique. Vous allez vous tourner vers votre voisin et vous allez lui dire, selon la parole de Dieu, tu es fou, faible et vil.
Je ne peux pas dire ça à ma femme.
Amen. Selon la parole de Dieu, on est fou, faible et vil. Il n'y a pas à en avoir honte. Il y a une petite illustration qu'on peut trouver aussi dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7. Mais ce trésor, nous le portons dans des vases faits d'argile pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui se manifeste et non notre propre capacité. J'ai amené une petite illustration pour vous montrer ce que nous dit ce passage. Nous sommes des vases d'argile. Nous sommes comme ces ponts d'argile confrontés aux épreuves. Et nos vies prennent des coups. Et parfois se cassent. Ces craquelures qu'on voit là, ça c'est nos faiblesses. Et le monde nous pousse à cacher ces faiblesses. Comme sur ce pot. Ça c'est des pansements. Chacun d'entre nous est un vase qui porte la vie. Mais pas tout le monde porte une présence qui soit une bénédiction pour les autres. La religion pousse les gens à suivre des lois pour les rendre parfaits, comme ce vase sans craquelure. Mais si on met une lumière sous ce pot, personne ne peut voir la lumière qui est à l'intérieur. Les vases sans craquelure ne peuvent révéler la lumière pour éclairer les autres. Dieu, au contraire, a choisi des pots imparfaits. Il a choisi des pots imparfaits pour révéler sa lumière. Nos pots imparfaits laissent passer la lumière, l'amour de Jésus. Et on peut devenir une bénédiction pour les autres. Nous, chrétiens du XXIe siècle, on a un problème. Ce n'est pas en fait qu'on est trop faible, mais c'est que paradoxalement, on est trop fort pour Dieu. John MacArthur disait ceci, « Il y a trop peu de personnes suffisamment faibles pour être fortes, alors qu'il y a trop d'hommes trop forts pour être vraiment puissants. » Je répète, « Il y a trop de personnes suffisamment faibles pour être fortes, alors qu'il y a trop d'hommes trop forts pour être vraiment puissants. » Sachons que Dieu ne nous utilisera que lorsque nous cesserons de nous appuyer sur nos propres qualités. Sur nos propres capacités. Est-ce que Dieu compte tout ça ? Non. Mais il veut qu'on s'appuie sur lui seul. Et c'est pour ça qu'il permet la souffrance. Parce que la souffrance nous rend humbles. Parce qu'elle nous ramène à une dépendance à lui. Samson, dans sa faiblesse, a fait s'écrouler le temple. Joseph, dans sa faiblesse, a été élevé sur le trône d'Égypte. Job, dans sa faiblesse, a vu la gloire de Dieu. Et Jésus, c'est l'exemple suprême. Personne sur terre n'a vécu autant de rejets, autant de souffrances physiques, spirituelles, morales, que Jésus sur la croix. En un claquement de doigts, il aurait pu faire tomber les clous. Il aurait pu commander à une nuée d'anges de venir l'aider. Mais il a choisi de rester là, dans cette souffrance, pour nous. Pour qu'au travers de cette faiblesse, la puissance de Dieu puisse nous atteindre. Si aujourd'hui on est tous bénéficiaires de cette grâce, c'est parce que Jésus a accepté cette faiblesse. Quel exemple ! On va prendre maintenant un passage dans 2 Corinthiens, qui en tout cas pour moi, ça fait l'effet d'une bombe quand je l'ai lu. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de lire certains passages, et finalement de lire les mêmes lignes encore et encore, de revenir parce qu'on les a oubliés, peut-être parce que c'est monotone ou qu'on est dans une généalogie, peu importe. Alors qu'à l'inverse, des fois, on lit d'autres passages, mais on est tellement excité qu'on a l'impression d'avoir découvert un trésor et qu'on a absolument envie de le partager. Ça, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu le passage qu'on va prendre après. Et je pense aussi que c'est un petit peu ce qu'a ressenti Paul quand lui, il a écrit ce passage, quand il voulait nous le communiquer. Mais juste avant qu'on puisse le prendre, donc c'est dans 2 Corinthiens au chapitre 12, je voudrais resituer brièvement le contexte. En gros, dans les chapitres précédents, Paul a investi pas mal de temps, pas mal d'efforts pour parler aux Corinthiens, pour leur apporter la bonne nouvelle. Et là, en fait, les Corinthiens, ils en viennent à remettre en cause son ministère, à remettre en doute tout ce qu'il a dit, et même limite à l'accuser de faux enseignants. Et Paul, alors qu'il n'aime pas ça, il n'aime pas se vanter, parce qu'il sait qu'il est fragile vis-à-vis de l'orgueil, ben, il doit se défendre. Et on va prendre 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 7 à 10. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur, de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Là, Paul, il nous parle d'un problème qui fait l'effet d'une épine dans sa chair. Alors, depuis longtemps, les théologiens ont essayé de savoir ce que c'était que cette épine, et puis ils n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. C'était peut-être de l'opposition, tentation, maladie. Vous savez quoi, à la limite ? Franchement, on s'en tape. Peu importe. Même tant mieux, comme ça, chacun peut mettre sur cette épine son problème à lui. Quelque chose qui est tout petit, mais qui finalement nous fait tellement mal que ça occupe toutes nos pensées. Et cet épisode dans la vie de Paul, il a été vraiment déterminant pour lui. Il lui a permis de découvrir une autre dimension de la gloire de Dieu, même s'il était déjà chrétien. Son orgueil l'empêchait de connaître cette puissance que Dieu veut donner. L'orgueil est tapis au fond de chacun d'entre nous. On est tous des orgueils en puissance, moi le premier. Et cet orgueil ne demande qu'à surgir à chaque fois qu'on dit des phrases comme « ça va, je m'en sortirai tout seul, j'en ai les capacités ». Et Paul a vraiment expérimenté aussi ce verset qu'on peut trouver dans Jacques. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il a vécu ce passage. Et il y a des épreuves qui peuvent nous conduire à l'essentiel. Mais c'est quoi l'essentiel ? L'essentiel, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. L'essentiel, c'est de dépendre de Dieu. J'avais rencontré donc à Grenoble un homme, peut-être certains le connaissent, qui s'appelait Henri Briand. Je dis s'appelait parce qu'il est mort d'un cancer en phase terminale. Et lors d'une étude biblique de semaine à l'église, il nous a partagé quelque chose qui m'a vraiment bouleversé. Il nous a dit que ce cancer qu'il vivait, finalement, il en était reconnaissant au Seigneur. Reconnaissant pourquoi ? Parce que il était devenu tellement dépendant de Dieu à cause de cette maladie que finalement son cœur s'est rapproché de Dieu. Que finalement, il passait tellement de temps dans la présence de Dieu à cause de cette maladie qu'il en était reconnaissant. Et je me suis dit à ce moment-là que lui, il avait compris ce que c'était que l'essentiel. Et pour nous faire comprendre ça, Paul, il est convaincu que Dieu peut utiliser Satan pour son plan. Lui, Satan, il a l'impression d'infliger une épreuve à Paul pour le faire chuter. Mais en fait, c'est juste un instrument dans les mains de Dieu, comme dans l'histoire de Job. Une petite histoire pour illustrer ça, que j'ai lue il y a quelque temps. Il y a une dame qui était très pauvre, et elle appelle une radio chrétienne pour partager ses besoins. Et elle explique que son mari était en chômage depuis plus de 3 ans, que c'était très compliqué pour joindre les deux bouts et puis pour nourrir ses 6 enfants et leur donner ne serait-ce qu'un repas par jour. Et donc elle partage ça sur la radio, et parmi les auditeurs, ce jour-là, il y avait un marabout. Et le marabout se dit, elle, je vais lui faire un sale coup. Il arrive à se procurer l'adresse de la dame, il convoque ses employés, et il leur dit, vous allez faire les courses, et vous allez lui livrer. Et quand elle vous posera la question, mais qui m'a envoyé ça ? Vous lui direz que c'est le diable. Alors les employés s'exécutent, ils vont voir cette dame, ils sonnent, elle ouvre, et puis d'un coup elle voit les courses, elle commence à avoir un sourire, et puis ils lui disent que c'est pour elle, elle prend ses courses, elle les range, elle les reçoit vraiment avec foi, avec joie. Et puis un des employés lui dit, mais vous savez qui vous a envoyé ça ? Et elle les regarde et leur dit, mais vous savez, peu importe, quand Dieu ordonne, même le diable obéit. On n'a pas à craindre Satan. On n'a pas à craindre Satan, c'est un instrument dans les mains de Dieu. Et pour en revenir à notre texte, Paul retourne à Dieu. Et il ne commande pas à Satan de s'éloigner, il n'est pas en train de prendre autorité sur cette maladie, mais il va à Dieu, il le supplie d'enlever cette écharde. Et Dieu met du temps à répondre. Ce n'est pas dit, j'ai prié une fois et Dieu m'a répondu. J'ai prié une fois, j'ai prié 2 fois, j'ai prié 3 fois et Dieu m'a répondu. Et Dieu ne l'a pas soustrait à l'épreuve, il ne lui a pas enlevé ce qui lui faisait mal. Mais il lui a dit, ma grâce te suffit. Et nous, aujourd'hui, on a plus envie d'être remplis de puissance que de grâce. On est plus intéressé par la puissance que par la grâce, mais Dieu a choisi de déverser sa grâce suffisante à Paul. de lui déverser sa grâce pour qu'il puisse traverser cette épreuve, traverser ce processus d'humiliation. Parce que oui, Dieu a utilisé Satan pour humilier Paul, de la même manière qu'il a utilisé pour humilier Job, Pierre, Moïse. Charles Spurgeon disait qu'il n'y a que deux types de personnes dans le ministère, les humbles et les humiliés. Et le Seigneur veut nous faire passer par ce processus d'humiliation. Mais pas nous humilier dans le sens de nous mettre la honte, mais nous faire abandonner cet état d'orgueil. Le but de Dieu, ce n'est pas de nous écraser ou de nous punir, mais c'est de nous amener à le laisser agir en nous pour qu'il nous transforme. Et puis un bel exemple dans la parole qu'on voit sur ce cheminement qu'il peut y avoir dans le cœur de l'homme, et c'est celui de David. Le roi David, vous l'avez déjà certainement lu, il a fait des grosses boulettes, et le mot est faible. Il a eu cet adultère avec Bathsheba, puis comme si ce n'était pas suffisant pour se couvrir, il a fait tuer son mari Uri le Hittite. Et on voit qu'il a l'âme abattue, David. On peut le lire dans Psaume 32, versets 3 à 11. Bon, j'ai volontairement grisé une certaine partie. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Et puis d'un coup, il y a un changement. Il confesse sa faute à Dieu. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Et là, on avance un petit peu plus pour aller directement au verset 11. Juste, « Réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. » Au début du psaume, David est dans l'affliction. Il se regarde, il est comme ça, son cœur le condamne et il est vraiment triste. Et puis d'un coup, il confesse sa faute à Dieu. Et il y a marqué, « Tu as effacé la peine de mon péché. » Début de la transformation. Pour le remplacer par quoi ? Par de la joie. De la joie dans son cœur, mais de la joie qui déborde. Réjouissez-vous, vous tous qui êtes droits de cœur. C'est une joie qui est pour les autres aussi. Alors ne restons pas timides. Ne restons pas silencieux en prétextant qu'on ne sait pas prier, mais allons vers lui quand on est dans cette épreuve. Et Dieu, encore aujourd'hui, cherche des hommes faibles. Il cherche des hommes, des femmes qui se savent limités dans leurs forces pour le laisser agir, lui. Parce qu'aujourd'hui, on est finalement aussi faible que Paul, on est aussi faible que Moïse, on est aussi faible que Charles Spurgeon, que John MacArthur, on est aussi faible que Philippe de la Fuente. On est faible. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette faiblesse? Beaucoup de gens se disent « je suis faible ». C'est la phrase assez chrétienne qu'on utilise souvent pour se justifier de nos péchés. « Oui, je sais, ça va, je suis faible, mais qu'est-ce que tu veux ?» Tout le monde est faible. Mais le bon état d'esprit, c'est qu'en reconnaissant notre faiblesse, ça nous conduise immédiatement vers Dieu. Il y a des fois où on ne reconnaît pas qu'on est faible, et puis d'autres fois où on reconnaît qu'on est faible, mais on reste dans cette faiblesse. Et on regarde notre péché, et à cause des mensonges de l'ennemi, et à cause des fois de notre propre cœur qui nous accuse, on se met tout seul sur le banc de touche. On se met à l'écart de la présence de Dieu, et on écoute ses mensonges. Tu ne peux pas aller vers Dieu maintenant. Tu ne peux pas continuer de retourner sans cesse vers lui. Tu as fait ce même péché-là hier, tu es retourné au pied de Dieu, il t'a pardonné, et tu refais encore ce même péché. En fait, tu es un hypocrite. Tu n'apprécies pas Dieu, tu ne respectes pas Dieu, tu n'as pas une haute estime de lui. Tu crois quoi que Dieu, c'est un distributeur à pardon? Et on se dit qu'on est impur, on se dit qu'on est hypocrite. Et des fois, on imagine que c'est juste le temps finalement qui va faire son œuvre, comme si la repentance ne suffisait pas. Comme si le temps va nous permettre de pouvoir augmenter notre capital de bons points, comme dans la série télé dont je vous ai parlé au début, pour revenir dans les bonnes grâces de Dieu. Pour pouvoir de nouveau avoir le droit de lui demander pardon pour ce même péché. Mais il ne faut pas qu'on croie ces mensonges. À chaque fois que je fais ce même péché-là, à chaque fois que je retourne au pied de Dieu et que je m'attends à son pardon, je ne suis pas en train de déconsidérer Dieu. Je ne suis pas en train de le considérer comme un distributeur à pardon, non. Tout ça, c'est simplement biblique. un des plus grands bonheurs, une des plus grandes joies que j'ai dans mon cœur, c'est quand j'ai découvert que finalement, à chaque fois que je refais ce même péché-là, ce péché qui brise mon cœur, ce péché qui m'accuse, qui me condamne, quand je refais ce même péché-là, mon premier réflexe, c'est de pouvoir courir au pied du Seigneur, de pouvoir m'agripper à lui, et pas timidement du style « me voici », mais de pouvoir m'agripper avec confiance, avec foi en lui, et de lui dire « je crois en tes promesses ». Je crois que ce que tu as fait sur la croix, c'était pour moi. Je veux saisir cette grâce que tu me donnes. Je suis un homme différent. Tout ça, ça me concerne. Je suis libre. Dieu me connaît de la même manière que Dieu te connaît. Dieu connaît tous les péchés que tu as faits. Et si ce matin, il y a un péché que tu refais sans cesse et sans cesse, sache que Dieu n'est pas mort pour le premier péché de la série. Il est mort pour tous tes péchés. Ce que tu as fait hier, ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu feras demain, il a tout pris. Il a tout pardonné. J'ai demandé aussi aux musiciens de s'approcher. On va reprendre ensemble un dernier chant. Mais juste pour résumer, je voudrais juste qu'on se rappelle que c'est ces faiblesses-là, ces faiblesses qui nous accusent, ces faiblesses que le monde nous demande finalement de mettre sous le tapis. Ces faiblesses qui font qu'on se sent mal parfois. Eh bien, c'est ces faiblesses qui font que Dieu nous a choisis. Que Dieu nous a choisis pour son plan parfait. Et notre faiblesse dans l'épreuve, notre faiblesse dans l'adversité, doit conduire à un réflexe. C'est de nous conduire à Dieu. À l'image de ce pot d'argile, et Clément, si tu peux passer la dernière slide, à l'image de ce pot d'argile qu'on voit qui a pris des coups, qui a souffert, de la même manière aussi, n'ayons pas honte de ses faiblesses et laissons passer la lumière de Jésus pour qu'elle puisse éclairer les autres. On est appelé à nous saisir de ces promesses qui sont dans la Bible. On est appelé à nous saisir de cette grâce que Dieu veut nous donner, cette grâce qui nous a été donnée sur la croix. Parce que de la même manière qu'il a déversé sa grâce suffisante à Paul pour qu'il puisse traverser ses épreuves, il veut nous la donner aujourd'hui, cette grâce à chacun. Cette grâce qui est magnifique. Cette grâce qui surpasse toute intelligence. Je voudrais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce que quand le monde nous dit qu'on est des moins que rien, qu'on ne vaut pas la peine, quand le monde nous dit que ces faiblesses, finalement, elles font de nous des mauvais, toi, tu as choisi de nous utiliser au travers de ces faiblesses pour que ta gloire, pour que ta grâce se manifeste à chacun, pour que le monde voit cet amour inconditionnel. Seigneur, merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Tu nous connais parfaitement et tu ne nous en veux pas de savoir que demain on péchera parce que tu as tout pris sur la croix. Tu as pris chacun de nos péchés.
Grâce infinie. Yes. Merci beaucoup Mathieu pour ce message. J'aime beaucoup cette image. Je vais repartir cet après-midi avec ce pot. En fait, on n'a pas besoin de prendre ce pot avec nous. Nous sommes ce pot et je vais garder cette image précieusement dans mon esprit. Et combien c'est bon de savoir que nos épreuves, nos maladies, nos souffrances ne sont pas un handicap, mais un sujet de gloire pour Jésus. Une preuve qu'il est vivant et que sa lumière brille à travers nous. Merci encore une fois. Ce matin, je pense que nous allons avoir, ce dimanche va faire partie des dimanches records en termes d'annonces. Vous savez que c'est la période de Noël, donc on a plusieurs choses à vous communiquer. Et la première annonce que j'aimerais faire concerne les annonces. Une annonce pour les annonces. Que faire quand on a une annonce perdue, oubliée, non mentionnée, non annoncée? Que faire? Vous ressortez de ce lieu, c'était à quelle heure? Est-ce que c'était annulé? Est-ce que c'était, ils n'ont pas annoncé tel événement? J'ai un secret pour vous. Église évangélique protestante, le CEP, le site est mis à jour régulièrement, toujours mis à jour. Donc, vous avez une hésitation, comme nous le savons, tous les jeudis, à quelques exceptions près, il y a la chorale. Et parfois, on peut se dire, est-ce qu'il y a la chorale ce jeudi ou en fait, il y a le film Le cœur de l'homme? Je ne m'en rappelle plus. Allez sur le site, c'est inscrit. Tous les samedis, la réunion de jeunesse qui a lieu, s'il y a un événement exceptionnel, ça va être annoncé aussi. Je ne me rappelle plus pour qui est-ce qu'il fallait que je prie. Allons sur le site, on est concerné pour un frère. Et j'en profite d'ailleurs pour dire, prions pour Pierrot et Hélène Zbindon qui ont besoin d'être soutenus dans la prière. Et je pense qu'il y a plusieurs, je n'ai pas mentionné les bons noms, Madeleine et Hélène aussi, hein. J'avais vu Hélène aussi. Donc, plusieurs personnes qui ont besoin d'être portées dans la prière. Je ne rentrerai pas dans les détails sur quelle est la problématique de la santé. Parfois, il y a des choses qui touchent vraiment à la vie intime des uns et des autres. Et c'est une bonne occasion justement pour prendre le téléphone, les appeler et ils vont se faire un plaisir de pouvoir dire « Voici, prie pour moi. J'ai été voir tel médecin, il y a ça. » Et ça sera encore plus efficace. Donc, prions pour nos frères, nos sœurs qui sont dans le besoin. Au niveau de leur santé, peut-être professionnellement, peu importe, mais n'oublions pas de prier les uns pour les autres. Avant de poursuivre dans les annonces, j'aimerais demander à Jean-Paul qui a une annonce à nous faire concernant la banque alimentaire, si tu veux bien venir nous communiquer ton info.
Merci. Il y a beaucoup, beaucoup de choses ce week-end, cette fin de semaine, vous allez le voir. Entre autres le marché de Noël qui est là, mais Philippe va faire aussi dire un petit mot à ce sujet-là après. On a un gros problème pour la banque alimentaire, je ne vous cache pas, on est un peu ennuyé. On cherche vraiment du monde pour le vendredi. On a besoin de monde pour, avec Elodie, on a fait le point hier, on a besoin de monde pour le magasin de Colruyt et pour le magasin de Seny. Alors j'appelle les retraités. Alors, il faut être faible pour venir à la banque alimentaire. Il faut être faible, il faut juste avoir du temps, donc du temps de libre. Prenez du temps. On cherche notamment du monde pour le vendredi soir. Donc là, tout le monde a fini sa semaine de boulot. Donc 2 heures, 3 heures le vendredi soir, c'est facile. Hein. Il n'y a besoin d'aucune qualification. Alors on cherche 2 choses. Donc des personnes pour le vendredi, pour le magasin de Colruyt à Cessy, pour le magasin de Seny. Et on chercherait une personne qui aurait du temps vendredi toute la journée. Pour prendre un magasin en responsabilité. C'est rien du tout, c'est le magasin de Colruyt. C'est juste sympa, c'est juste une expérience super que vous aurez à vivre. Mais on cherche quelqu'un pour démarrer le matin et pour pouvoir mettre en route et veiller un petit peu toute la journée. Donc, ce n'est pas forcément tout le temps. Voilà, donc j'ai toutes les dates ici, moi, les heures. Vous pouvez venir ou m'appeler ou venir me demander après. Merci beaucoup.
Super, merci à toi. Et j'aimerais à présent inviter Pascal, qui a une autre annonce aussi à nous faire. Toujours dans la thématique de la saison de Noël.
Alors, comme d'habitude, on a le dépôt Noël qui est là. Il n'est pas tout à fait installé parce qu'avec les travaux, on n'a pas encore tout mis. Mais vous pouvez venir nous voir. Donc, il y a pour tous les âges, des plus petits aux aînés. Pour les calendriers mensuels, que vous pouvez venir nous commander aussi. Pour les calendriers à effeuiller, vous voyez avec Anne-Marie. Ceux qu'elle n'aurait pas, vous pouvez aussi les commander auprès de Thérèse aussi. Et puis, venez vous faire un petit tour, il y a des choses sympas. Voilà, merci.
Super, merci beaucoup. Et on continue avec les annonces, mesdames et messieurs, ce n'est pas terminé. Alors, vous savez que chaque année, moi je l'ai appris récemment, mais je trouve ça vraiment super. Il y a une vente de calendriers à feuillets que vous pouvez détacher. Donc, c'est là une pensée quotidienne. Ils sont disponibles à partir dès aujourd'hui auprès d'Anne-Marie. Donc, vous pouvez aller vous en procurer un, soit pour vous-même, soit pour l'offrir à votre voisin, à votre collègue, à votre ami, etc. Une belle occasion aussi de pouvoir exprimer vos meilleurs vœux de saison des fêtes auprès de vos proches. Donc, les calendriers sont disponibles auprès d'Anne-Marie. Jean-Paul l'a mentionné, le marché de Noël de Prévesaint, vendredi 30 novembre, dès 16h. Le CEP va avoir un chalet à disposition en faveur du commerce équitable. Alors, on nous invite à venir les rendre visite afin de soutenir justement cette action en faveur du commerce équitable. Et puis, tous les horaires se retrouvent dans le fond de la salle. Si vous avez besoin d'informations, de précisions, allez voir Lydie. Elle va se faire un plaisir de pouvoir vous donner toutes les informations dont vous auriez besoin. Samedi, le 1er décembre. 1er décembre, samedi, nous avons un événement spécial, club d'enfants. Est-ce qu'il y a des jeunes ici de 4 à 14 ans? Non? Ouais, allez, faites semblant que c'est vous qui criez. Oui, on est là! OK. Bon, est-ce qu'il y a des parents, vous avez des jeunes de 4 à 14 ans? Levez la main. Yes! Bon, on est bénis avec nos enfants. Il y a un super événement qui se passe régulièrement et ça va avoir lieu justement le 1er décembre, de 4 à 14 ans. Les informations sont inscrites de 10h à midi, si je ne me trompe pas. Belle occasion aussi d'inviter des amis, de faire part autour de vous de cet événement. Je trouve que moi, je suis vraiment extraordinairement reconnaissant pour la place que nos enfants ont dans notre Église et c'est extraordinaire. Donc, ne manquez pas cet événement le samedi 1er décembre. Dimanche, pardon? Oui, d'ailleurs, vous voyez ce flyer bleu, super beau. Alors là, il est gros, mais vous avez le format petit, poche, disponible au fond de la salle que vous pouvez distribuer autour de vous. Merci pour le rappel. Donc, n'hésitez pas à en prendre un en arrière de la salle. Dimanche, le 2 décembre, la semaine prochaine, je ne serai pas avec vous, je ne serai pas parmi vous. Je suis invité à prêcher à l'église de Versoix. Et dimanche, la semaine prochaine, c'est un dimanche pour l'église persécutée. Donc, nous allons avoir comme prédicateur invité Marc Trévis. J'ai eu l'occasion de parler avec lui une vingtaine de minutes au téléphone. C'est lui qui a pris la relève là, au niveau de représenter Porte Ouverte. Il est le représentant de Porte Ouverte dans tout le sud de la France. Il va être avec vous dimanche. Et à la fin du culte, il va y avoir une mini-vente au profit de Porte Ouverte. Donc, ne manquez pas ce dimanche avec Marc Trévis qui sera avec vous. Gros événement, c'est bientôt Noël, ça arrive à grands pas. Sérieusement, le 8 décembre, c'est à nos portes. Là. C'est à nos portes. D'ailleurs, on a eu notre première neige cette semaine. C'est bon, là, Jésus arrive. donc, entre ciel et terre, nous avons notre un spectacle de Noël entre ciel et terre qui va avoir lieu à la salle Gaston Laverrière. Si vous êtes là depuis peu à l'église, vous ne savez pas où est-ce que c'est la salle Gaston Laverrière, il y a des fortes chances que vous avez entendu parler du club d'été. C'est la même salle. Encore une fois, il y a possibilité d'avoir les informations au niveau de l'adresse, etc. C'est une entrée libre. Il va y avoir un apéro, un apéro dînatoire à la fin du spectacle. Et ce qu'on aimerait vous demander au fond de la salle, encore une fois, il y a beaucoup de choses au fond de la salle, c'est riche. On regarde souvent en avant, mais on ne réalise pas toutes les ressources qu'il y a en arrière. Et il y a une feuille d'inscription donc, pour pouvoir inscrire si vous désirez justement apporter du salé, du sucré. C'est un apéro. Moi, j'ai proposé une tartiflette, mais voilà, et on m'a dit « c'est un petit peu lourd pour un apéro, une tartiflette. » Donc, si vous voulez amener 15 paquets de chips et puis 3 bouteilles de coca ou peu importe, inscrivez, c'est libre à vous. Inscrivez ce que vous êtes en mesure de pouvoir apporter pour cet apéro. Et j'aimerais presque terminer. Avant-dernière annonce. Là, on est en 2018. On va transiter en 2019. 2019, mardi. Le 15 janvier à 14h30, et là, il y a beaucoup de gens qui disent « mais je ne suis pas disponible, ça ne te concerne pas parce que tu n'as pas 65 ans et plus. » Donc, tu as 65 ans et plus, nous aimerions avoir une réunion de consultation. Ce n'est pas une réunion de lancement pour les aînés, mais une réunion de consultation avec vous, messieurs, mesdames, 65 ans et plus. En même temps, on veut sonder l'intérêt. Donc, c'est sûr que si le mardi 15 janvier, c'est ça, à 14h30, on se retrouve avec 3 personnes, Bon, on a compris que le message, c'est qu'il n'y a pas vraiment un grand intérêt pour lancer quelque chose pour les aînés. À l'inverse, on se retrouve avec 15, 20, 30, 50 personnes. Ah, là, il y a quelque chose à faire. Comprenez ce que je veux dire. Donc, on aimerait en fait sonder l'intérêt, voir avec vous qu'est-ce que vous aimeriez, quelles sont vos attentes. Donc, c'est vraiment, on va avoir un temps de partage aussi. Je vais être là avec vous aussi et voir un peu comment est-ce qu'on peut... Moi, je crois que les aînés ont pleinement leur place dans l'Église. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se font dans l'Église grâce aux aînés. Et on est vraiment, vraiment reconnaissant pour le fait qu'on puisse bénéficier de votre saison de vie ou que vous mettez à profit pour l'Église. Je termine avec cette dernière annonce. Mardi, on vous donne rendez-vous ce mardi 27 novembre à 20h30, je pense. La prière, c'est 20h30, c'est bien ça? Ce mardi 27 novembre, c'est un rendez-vous de prière. On parlait de prendre soin de nos personnes qui sont malades. C'est une belle occasion. Tu as besoin de recevoir, tu désires recevoir la prière, tu as un sujet, tu as une requête. Viens nous voir mardi le 27 novembre. On va prier ensemble. On va prier les uns pour les autres. On va prier pour différents sujets. Et il va y avoir 10 minutes, pas plus, parce que c'est une réunion de prière, ce n'est pas une étude biblique. J'aimerais apporter quelque chose sur comment se reconnecter à une vie de prière. Et on sait que la prière est l'une des choses qui nous met en contact avec Dieu, mais souvent le défi, c'est qu'on est déconnecté de la prière elle-même. Alors j'aimerais partager courtement quelque chose en 10 minutes sur comment se reconnecter à une vie de prière. Et je crois qu'on va avoir un temps vraiment, encore une fois, un temps béni, un temps privilégié ensemble avec un petit moment de louange, de partage. Donc rendez-vous immédiatement. Donc pour le prochain rendez-vous immédiat de cette semaine, ça va être mardi, ce 27 novembre à 20h30, on vous attend. Ça va bien comme ça, c'est clair? Alors on revient au secret de l'annonce, vous avez oublié, vous n'avez rien compris, vous n'avez pas compris mon accent, allez voir le site l'Église du CEP qui est toujours mis à jour. Et là, vous allez avoir toutes les informations. Et en plus, vous pouvez prendre le téléphone, nous appeler, appeler les anciens, appeler quelqu'un. Au fait, c'était quoi? Donc, inquiétez-vous pas, toutes les informations sont accessibles. Ça va? Merci pour votre patience. J'aimerais juste qu'on puisse se lever. J'aimerais terminer par un mot de prière. Et que le Seigneur, avant que cette matinée ensemble se termine. Seigneur, on veut te dire merci. Merci pour ce temps de louange. Merci, Seigneur, pour cette parole, ce rappel que c'est dans la faiblesse, Seigneur, que tu nous rends fort. Merci, Seigneur, pour tous les projets qu'il y a dans cette église, dans ton église. Seigneur, on veut te remettre au-delà des annonces. Seigneur, on te prie pour ta faveur sur ce spectacle de Noël. On prie pour ta faveur sur le marché de Noël, pour le Marc Trévis qui va venir apporter ton message dimanche. On te demande de le bénir, de le porter, que tu puisses parler à travers lui. Tous les sujets, on te prie, Seigneur, pour ce club d'été qui va avoir, ce club d'enfants qui va avoir lieu, Seigneur, prochainement. On te demande, Seigneur, de bénir nos enfants, Seigneur. Merci pour chaque visiteur, pour chaque invité, Seigneur, que ce lieu soit un lieu de révélation de ton amour, que ce lieu soit un lieu de bon témoignage pour la communauté de Prèves-Saint-Mouin et plus encore, que ce lieu soit un lieu de référence où il y a un lieu d'amour, un lieu de vie. Et merci pour mes frères, pour nos sœurs, pour nos amis, pour le fait d'avoir été ensemble ce matin, Seigneur Jésus. Nous recevons pleinement tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Et Seigneur, nous te remettons cette semaine entre tes mains et nous déclarons que tu es le Seigneur, l'Éternel, le Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu. Que l'on soit malade ou non, tu es avec nous. Alors merci d'avance pour cette semaine qui s'ouvre devant nous, dans laquelle tu vas nous accompagner pas à pas. Amen. Amen. Bon appétit à tous. Merci encore pour tout, pour votre présence.